Et vous êtes toujours à distance, en direct de Versailles. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, comment allez-vous ce matin ?
Et fort bien. On va parler de la nature avec vous, évidemment. Cette nature qui, en ce moment, semble reprendre ses droits.
Eh oui, oui. Malgré le retour du froid annoncé il y a un instant et une journée maussade, le printemps est là, et bien là. Mais le Covid-19 a réussi à nous le faire oublier. Dehors, regardez bien, la végétation reprend des couleurs. Et si on a, comme moi et comme d'autres, fort heureusement, la chance d'avoir un jardin à portée de vue, il est possible en ce moment de voir fleurir les primevères qui nous annoncent l'arrivée des jours meilleurs. Je parle de météo, bien évidemment.
Primevère, c'est un bien joli nom.
Et vous avez raison, il a pour origine le latin primavera, ce qui signifie premier printemps.
Et primevère, il en existe une grande diversité.
Cela dépasse l'entendement. Il en a été recensé près de 400 espèces, soit des milliers de variétés et encore davantage d'hybrides. Alors, parmi les primevères les plus visibles en ce moment, la primevère des jardins ou Primula vulgaris. Et elle a ma préférence. Bien souvent, elle fut plantée il y a des années dans un massif ou dans une jardinière. Et ses graines ont ensuite donné naissance à de nouvelles fleurs qui, tous les ans, se sont ressemés. Aujourd'hui, on en voit partout et c'est un véritable bonheur. D'où l'intérêt, Eric, de ne pas traiter chimiquement sa pelouse et d'attendre un peu avant de tondre, je le disais hier. Il y a parfois de belles surprises qui apparaissent au milieu d'une pelouse, à condition, bien sûr, de laisser la nature s'exprimer.
Attendre avant de tondre, l'un des premiers conseils de la journée. La primevère officinale, c'est l'une des primevères les plus connues.
Et oui, elle est très commune en France, vous la connaissez aussi, et elle n'est pas très visible près de la Méditerranée, et elle croît principalement, dans les prairies et le long des chemins. Cette primevère a toujours été appréciée pour ses prétendues vertus médicinales, d'où son nom d'herbe de la paralysie. Son principal usage était dans les affections de la tête, l'apoplexie et la paralysie.
Ouais, cela dit, herbe de la paralysie, ce n'est pas un nom très valorisant pour une plante?
C'est exact, d'où son autre surnom, le coucou, appelé ainsi car la petite fleur jaune, connue de tous, apparaît quand l'oiseau, le coucou, se fait entendre. À ce sujet, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous Eric, mais je ne l'ai pas encore entendu chanter et ça ne devrait pas tarder.
Coucou, coucou, Alain Baraton, à présent vos réponses, vos conseils aux auditeurs de France Inter qui nous ont fait parvenir leurs questions sur franceinter.fr. On commence avec Pierrick qui veut vous parler de son Euonymus japonicus benkomasaki erecta. Il perd ses feuilles par le bas sur certaines tiges. Alors, Pierrick vous demande pourquoi et quel est le remède.
Vous avez bien fait de prononcer son nom en intégralité. C'est un nom un peu compliqué, j'en conviens. C'est le nom du fusain du Japon à forme fastigiée. C'est un arbuste un peu particulier parce qu'il est conçu, je dirais presque, de manière très géométrique. Les feuilles sont disposées d'une manière très rigoureuse. Il a un port fastigié, un port dressé. Et c'est vraiment une plante très appréciée. Quantité, par exemple, d'architectes paysagistes l'utilisent. Il donne vraiment du volume, il donne des reliefs à votre jardin. Alors, effectivement, de temps en temps, on constate que les feuilles les plus bas, sont de chute. C'est un peu navrant, car justement, l'intérêt de cette plante, c'est d'offrir une apparence compacte. Alors, plusieurs raisons peuvent justifier la chute des feuilles au niveau du sol. La première, trop d'ombre. Cette plante supporte les situations ombrées, mais faut peut-être pas non plus exagérer. La plante ayant besoin de lumière, elle se dirige en hauteur et se désintéresse des feuilles les plus bas. L'oïdium, mais ça c'est visible, quand on a un petit feutrage blanc qui apparaît, la feuille ne peut plus assurer la photosynthèse, elle sèche, elle tombe, mais ça se serait vu très certainement. La poussière, on n'y pense pas, mais au ras du sol, on peut courir à côté, la poussière se développe sur les feuilles, là où se dépose plutôt, là encore, la photosynthèse ne peut pas se faire, la plante se sépare des feuilles. Les cochenilles, regardez par-dessous s'il n'y a pas des petites cochenilles. Là aussi, elles favorisent la chute des feuilles. Et puis encore, une dernière raison, et je pense que c'est très certainement celle-ci, le sol trop compact. La plante a du mal à faire respirer les racines. Ce sont les feuilles les plus bas qui en souffrent prioritairement. Alors vous allez me dire, Eric, ça fait beaucoup de choses pour une seule petite plante. Avouez qu'en ce moment, on a largement le temps de se préoccuper de la santé d'un végétal un seul.
Et ce n'est pas faux. Question de Pierre de Saint-Chamond. Il parle de ces clématites qu'il avait trouvées lors de l'achat de la maison il y a 26 ans. Elles se sont toujours bien portées, mais, depuis plusieurs années, les jeunes pousses de clématites sont attaquées par un parasite qui dévore les bourgeons. Alors, que faire, Alain Baraton ?
Essayer prioritairement, bien sûr, d'identifier le parasite. Alors, apparemment, si c'est une bestiole qui ne s'attaque qu'aux bourgeons, on exclut les pucerons noirs qui font pas mal de dégâts sur les clématites, et j'aurais tendance à privilégier l'oturinque. L'oturinque est un insecte que j'aime bien, parce que il n'agit que la nuit. On s'attend à le voir dans la journée, pas du tout. Dans la journée, il dort, il boulotte la nuit.
Un peu comme vous, non, Alain Baraton?
Bonjour Patricia. Non, je suis quelqu'un d'assez matinal. Voyez-vous, même ce matin, j'ai tenu compte du changement horaire.
Heureusement pour l'antenne.
Oui. Donc, je ne pense pas qu'il s'agit de l'oturinque, mais de sa larve. Or, il s'avère, j'en profite pour donner un conseil aussi. La larve de l'oturinque, par exemple, adore les jeunes pousses. Or, quand vous taillez trop un végétal, lorsque vous mettez trop d'engrais, que fait la plante ? Elle se développe anormalement. Elle produit davantage de jeunes pousses. Eh bien, ça attire quantité de bestioles qui s'en délectent. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce qu'il faudrait vraiment, c'est observer ce qui se passe, regarder, et je dirais exactement ce que je disais hier. Le monde aujourd'hui est en souffrance. N'en rajoutons pas, ne traitons pas, observons à la main. Les oturinques, on les détecte la nuit. Vous y allez avec une petite lampe électrique. Là encore, on a le temps de s'en occuper en ce moment, mais pas de produit, peut-être un purin d'ortie, si on a la chance d'avoir quelques orties dans son jardin, pourquoi pas, mais je ne vois pas quoi faire contre ces bestioles qui se délectent, des jeunes pousses de clématites. Et je vais même faire ce matin preuve d'un petit peu de provocation, ma foi, elles aussi, elles ont bien le droit de manger, je parle des bestioles bien sûr.
Oui, effectivement.
Il faut penser aux oiseaux également qui ont besoin des insectes. C'est la chaîne alimentaire, qu'on le veuille ou non.
Alors, rapidement, quelques secondes, Stéphanie et Olivier aimeraient savoir comment rempoter un jasmin. On a le temps ou on met la question la semaine prochaine ?
On a très le temps, on le rempote après la floraison, qu'il s'agisse du jasmin d'hiver, des Indes ou le jasmin étoilé.
Alors, un livre maintenant pour terminer cette chronique, Alain ?
Caroline Meully, elle a publié aux Actes Sud Cité Verte un livre qui s'appelle tout simplement « Des arbres dans la ville, l'urbanisme végétal ». Elle se pose une question qu'il faut se poser. L'arbre a-t-il encore sa place en ville ? L'ouvrage est magnifiquement documenté. C'est pas un roman, c'est un bouquin sérieux mais passionnant à lire. « Des arbres dans la ville » de Caroline Meully aux éditions Actes Sud Cité Verte.
Oui. Il coûte combien ?
Ah oui, alors je peux vous le dire parce qu'il me suffit de retourner l'ouvrage, voyez-vous, et je vous annonce tout de suite le prix, mais c'est écrit tout petit, dites-moi. Attends, j'ai 38.
Oui, il faut sortir les lunettes, Alain. Ouais, le problème, ce sont les lunettes.
Ah, vous êtes taquin.
Ou alors les bras pas assez longs. Merci beaucoup, Alain Baraton. Merci et à
samedi. On vous embrasse.
Et à samedi prochain.
On vous embrasse.